mode d'emploi.
Bonsoir à toutes et à tous, fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, quatrième vendredi du mois, c'est au tour de la quatrième dimension de squatter les ondes de mode d'emploi. Au mic, c'est MC Lolo et Mathéo, à la conversion et aux manettes, l'inégalable ingé son Claude, pilier de RFPP. Une émission un peu spéciale ce soir, puisqu'on ne parlera ni politique, ni économie, ni écologie. Enfin, peut-être un peu quand même, on verra. Ce soir, on fait une émission musicale. Quoi de plus normal sur une radio, me direz-vous? Mais c'est pourtant la première fois pour nous. On va s'intéresser à un format de disque particulier pour vous emmener faire 78 tours de Paris et de ses diasporas, accompagnés de musique des quatre coins du monde. Pour cette émission, pas besoin d'une pléiade d'invités, un seul suffit, monsieur Thomas Henry.
Bonsoir.
Alias Saint de Bakélite sur les réseaux sociaux. Grand collectionneur et passionné de 78 tours de tout horizon. Chasseur de sons, également à l'initiative du site web Disquaire de Paris. Je ne vais pas faire semblant de le rencontrer aujourd'hui, hein. Et encore moins de le vouvoyer, puisque je le connais depuis 78 ans, peut-être pas, mais 18 ans quand même. Ouais, Thomas, on te laisse les clés de l'émission, on revient dans une heure.
Bonsoir et merci à vous pour l'invitation.
Alors, peut-être Thomas, ouais, du coup, pour commencer l'émission, on va te... Peut-être que tu peux nous dire... on peut peut-être parler de l'objet, peut-être que tu peux nous dire voilà ce que c'est un disque 78 tours. Puis après, on parlera peut-être plus largement de bah, voilà, comment il se situe dans l'histoire de la musique ou de l'enregistrement sonore.
Ouais, exactement. Donc, c'est des disques que je collectionne. Enfin, je collectionne les disques depuis à peu près l'adolescence. J'ai commencé par les vinyles et puis, un jour, je suis tombé un peu par hasard sur cet objet que je connaissais mais que jamais vraiment eu entre les mains et j'ai eu un véritable coup de foudre. Donc, assez rapidement, parce qu'on va pas faire tout l'historique, toute l'histoire de l'enregistrement sonore, mais le 78 tours, on peut considérer ça comme l'ancêtre du disque micro-sillon que couramment on appelle le vinyle. C'est un terme assez générique qui englobe en fait des disques de nature, de vitesse assez variées. 78 tours, on peut en avoir qui tournent à 90 tours, d'autres qui tournent à 100 tours, il y en a qui commencent par le centre, d'autres par le bord.
Oui, parce que 78 tours,
c'est la vitesse par minute.
Ouais, ouais, exactement. C'est ça, d'accord.
Et nombre de rotations par minute.
Voilà, donc certains tournent plus vite.
Certains tournent plus vite. D'ailleurs, la vitesse est souvent inégale et des fois, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche parce que le disque tourne. L'enregistrement a été fait un peu trop vite ou un peu trop lentement. Et donc, cette vitesse est justement un enjeu. Donc, voilà, c'est des disques que je collectionne depuis un certain nombre d'années. Et au fil du temps, je me suis un petit peu spécialisé et en fonction de mes affinités personnelles, j'écoutais beaucoup de musique du monde et... Alors j'utilise ce terme qui est un pur anachronisme pour le coup quand on parle de 78 tours, mais je me suis un peu spécialisé justement sur tous les disques qui ont été enregistrés, qui étaient destinés au marché du Moyen-Orient, d'Afrique, des Antilles, d'Asie, d'Océanie, et en particulier les disques des diasporas justement, on va beaucoup en parler... Beaucoup en parler ce soir et alors j'en ai amené quelques-uns.
Ouais, voilà, juste peut-être avant de rentrer dans le sujet, mais justement le 78 tours, ça ressemble à quoi? Ça fait combien de centimètres de diamètre à peu près? Enfin,
alors, ça quand on n'est pas connaisseur, dit que c'est un vinyle, on te croit. Hein.
Alors c'est pas une question de taille, j'en ai apporté, mais nos auditeurs peuvent pas les voir, donc c'est un petit peu. Je vais essayer de décrire ce qu'on a.
On n'est pas diffusé en vidéo en direct sur Radio France ce soir.
Alors ce que j'ai entre les mains, c'est un disque de 25 cm. Ouais. Il y a eu aussi des vinyles de 25 cm, mais celui-ci, on voit tout de suite, il est beaucoup plus rigide. C'est pas la même matière, c'est pas du vinyle.
On appelle ça beaucoup moins souple.
De la gomme lax, voilà, d'accord. C'est pas souple et Je sais pas si on entend bien quand, ouais, quand je tape devant le micro, mais on sent que c'est assez rigide, très cassant, du coup, très fragile. Donc, quand on les trouve sur les brocantes ou dans les greniers ou sur les marchés aux puces, on les voit souvent en morceaux. Donc voilà, c'est un objet assez fragile.
Justement, c'est comme ça que t'as constitué ta collection.
Ouais, essentiellement.
On trouve encore des disquaires qui en vendent ou c'est uniquement dans les
alors,
brocantes?
Alors, des disquaires quand non, ça peut arriver, ouais, qui ont encore ça dans des bacs ou qu'on récupérait des lots, mais, sinon, c'est beaucoup. Je les trouve beaucoup effectivement en allant chiner tous les week-ends sur les brocantes. Demain matin, je serai au puce dès l'aube, peut-être pas, on verra. Pour les chercher. Donc c'est un peu ça mon terrain de chasse effectivement. Donc celui-ci fait 25 cm, mais pour répondre à ta question sur la taille, il y en a eu de toute taille. 25 cm et 30 cm pour les disques de musique classique, c'est les tailles les plus courantes, mais il y en a des beaucoup plus grands, des beaucoup plus petits. Donc voilà.
Et on les lit comment alors ?
Alors il y a plusieurs manières de les lire. À l'époque, on les lisait sur ce qu'on appelait des phonographes, des gramophones. Gramophone, c'est le terme en général qui est utilisé, mais en fait c'est un terme commercial, c'était une marque. Donc à l'époque, on les lisait comme ça. Alors on peut les lire encore comme ça aujourd'hui, mais ça peut. Enfin, il y a plusieurs écoles, disons. C'est très charmant d'écouter un 10-78 tours sur un gramophone. Et il y a un son qui est très particulier, une présence sonore assez géniale.
Donc le gramophone, c'est avec le pavillon.
Ouais, exactement, un pavillon, peu en forme de fleur qui peut être très 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 joli. En revanche, les écouter sur des machines d'époque, ça peut les abîmer. Donc, si on est soucieux de la préservation de l'objet, on peut les écouter sur des platines modernes. Donc moi, par exemple, à la maison, j'ai une platine qui ressemble à une platine moderne de DJ. D'ailleurs, enfin, c'est une Numark. Mais je peux les lire à 78 tours et j'ai une tête, une cellule spéciale pour les lire. Donc c'est comme ça que je les lis et c'est comme ça aussi que je les numérise et c'est comme ça que justement que j'ai numérisé les disques qu'on va écouter ce soir.
Eh oui, désolé de vous décevoir, on va pas les écouter en 78 tours ce soir, les morceaux. Ça aurait été un peu compliqué. Mais
on n'a pas de gramophone à RFP.
Ces morceaux. J'aurais pu en amener un parce que ça fonctionne sans électricité. C'était uniquement à manivelle. Donc le jour où il y a une coupure de courant, on peut toujours se rabattre sur une bonne vieille machine mécanique. Voilà,
donc tu vois, Mathéo, on finit par parler environnement. Quoi.
Exactement.
Le jour où il y a un effondrement, ça, on pourra sûr, toujours écouter de la musique mécanique.
Ad vitam.
Exactement. Et,
alors peut-être qu'on peut parler du site Disquaire de Paris que tu as développé du coup dans la suite de ta passion de collection.
Voilà, exactement. Donc en fait, indépendamment de la musique, je suis quand même un collectionneur, tout collectionneur et un peu accumulateur et obsédé par les objets qui collectionne. Et c'est vrai que très tôt, je me suis intéressé à la matérialité de l'objet. Donc même quand je les écoute pas, j'aime bien les manipuler, j'aime bien les regarder. Il y a toujours des choses qui m'intriguent dans leur aspect, est-ce qu'ils sont usés, quel est le design de l'étiquette, à quoi ressemble la pochette. Alors petite précision, donc là j'en ai une entre les mains. Les pochettes telles qu'on les imagine pour les vinyles, elles sont apparues donc justement avec le vinyle après la Deuxième Guerre mondiale. Pour les 78 tours, c'est au contraire, c'est des pochettes un peu neutres, donc soit en papier style craft. Complètement neutre ou à l'effigie d'une marque.
Oui, beaucoup moins de marketing finalement,
voilà,
d'image.
Pas sur le son qu'on va écouter. Quoi. Il n'y a pas le titre de la chanson ou
il
n'y
a pas
l'artiste.
Du tout le titre de la chanson sur la pochette, ni le nom de l'artiste, ni quoi que ce soit. Par contre, tu disais pas de marketing, c'est pas tout à fait juste parce que justement, il y avait des marchands notamment, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, qui se sont servis de ces pochettes pour développer de la publicité. Donc il y a souvent des pochettes à l'effigie des vendeurs comme ça. Et en fait, au fil du temps, j'ai commencé à les collectionner aussi, ces pochettes, et il y a toujours tout un tas de renseignements.
Je t'interromps parce que c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, sur la pochette, on trouve pas l'effigie de l'artiste, mais plus l'effigie du vendeur.
Alors, soit de la marque, du label, soit effectivement du commerçant qui diffusait ça. Et alors déjà, en termes d'iconographie, celle que j'ai dans les mains et que nos auditeurs peuvent pas voir, elle est rouge. Il y a écrit Gramophone Gaillard, donc ça, c'était le nom du commerçant. Il y a un petit logo, la voix de son maître. Je sais pas si ça vous parle, le chien qui a l'oreille tendue en train d'écouter la voix de son maître dans le pavillon du gramophone, puis quelques inscriptions. Mais c'est toujours assez riche et intéressant à regarder comme pochette. Et Et en fait, voilà, j'ai commencé à noter un peu tous ces renseignements et j'ai eu envie de placer ça sur une carte. Donc je pourrais peut-être vous parler après ce qu'on ouais. écoute quelque chose D'accord. maintenant.
Ouais, bah on peut écouter. Est-ce que Claude, on va lancer le premier morceau, donc Sonia Karabash, Ikiteli.
Voilà, c'est un morceau arménien et je vais vous en dire quelques mots après. Écoutez, Ikiteli, c'est un morceau de musique traditionnelle arménienne interprété par une chanteuse qui s'appelait Sonia Karakash. Ça a été enregistré en France en 1938 par la marque Odéon. C'est une musique de danse, c'est un air traditionnel assez courant qu'on entend d'ailleurs aussi dans la musique turque à cette époque. Ouais. On a entendu du oud, du kanoun. Kanoun, c'est un instrument à cordes pincé sur table qui est assez répandu au Moyen-Orient, et du kemani. Un instrument à cordes frottées. Je reviens au site d'Iscar de Paris dont je parlais tout à l'heure. Donc, je m'intéresse un peu à l'histoire de ces marchands, des premiers commerces qu'ont répandu l'enregistrement sonore, notamment à Paris. Alors, celui-ci a quelque chose de particulier. Et là, pour le coup, on est sur de l'histoire ultra locale. Collé sur l'étiquette du disque, on a une petite vignette à l'effigie d'un marchand qui s'appelait Artignan, qui était rue Le Sage. La rue Le Sage, c'est côté 20e, une rue qui est parallèle à la rue de Belleville. C'est un commerce qui a été créé en 1930 et qui a fermé dans les années 60. Et il y en avait un autre un petit peu plus haut, rue Pia, donc toujours pareil, perpendiculaire à la rue de Belleville. Et là, on a deux commerces qui étaient aussi des épiceries et qui sont qui nous raconte quelque chose de l'histoire du quartier.
Quartier où il y avait beaucoup d'Arméniens à l'époque.
Bah en fait, Belleville, de pas de tout temps, mais depuis très longtemps, c'est une terre d'immigration. Mmh. Il y a des brassages. Au début du 20e, c'était des Juifs russes et polonais. Ensuite, il y a les Arméniens qui sont arrivés. Il y avait des Turcs, des Grecs dans les années 30. Et après la guerre, les Algériens, les Marocains, puis les Chinois plus récemment. Et il y a un livre justement qui raconte ça, qui s'appelle L'Arménien de Clément Lépidis, que je recommande vraiment et qui décrit justement la vie à Belleville à cette époque. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec les disques, c'est que voilà, je les trouve, j'ai pas forcément beaucoup d'informations sur eux, je sais pas grand chose, mais il y a toujours une histoire qui se cache derrière, et justement c'est toujours le début d'une quête, et que ce soit par la pochette dont je parlais tout à l'heure, ou l'étiquette du disque, ou la vignette d'un disquaire, il y a toujours des petits indices comme ça dans l'objet qui donnent des indices et qui donnent envie d'en savoir plus. Donc là typiquement voilà un disque arménien qui a été vendu, acheté en tout cas dans un commerce de Belleville, et donc j'essaie d'imaginer, ça nourrit un peu, ça stimule mon imaginaire. Donc voilà, j'insiste là-dessus, la matérialité de l'objet, toutes les histoires qu'il peut avoir un peu enfouies dans son
sillon. Tu fais pas seulement des recherches sur le groupe, le chanteur, la chanteuse, tu fais des recherches sur qui a appartenu le disque et où est-ce qu'il a été acheté, où est-ce qu'il a été enregistré. En fait, t'arrives à trouver des pistes sur
qui a enregistré le disque, qui l'a diffusé. Ça, c'est des infos qu'on a directement sur l'étiquette. Où et quand il a été enregistré, ça, c'est des informations peut-être moins évidentes à trouver, mais qu'on arrive quand même à déchiffrer grâce à des numéros, ce qu'on appelle des numéros de catalogue, des numéros de matrice qui sont gravés dans la cire du disque. Ça, c'est ce qu'on appelle de la discographie. Donc, essayer de contextualiser précisément un enregistrement. Mais ça, c'est quand même des informations qu'on a. Et alors, savoir à qui il a appartenu, d'où il vient, comme je l'ai dit, il y a des petits indices. Des fois, on n'en a absolument aucun. Des fois, on a des surprises totales. On tombe sur un disque, sur une brocante à la campagne, et on est intrigué parce que c'est un disque japonais et on se demande comment il arrive jusqu'ici. Donc, parfois, on a des indices. Est-ce que ça a été ramené par un voyageur? Est-ce qu'il a été trouvé ici? Est-ce qu'il a été rapporté? Est-ce que c'était un Japonais qui vivait en France? Voilà. Donc, j'ai pas toujours, voire rarement la réponse.
Ouais,
mais en tout cas,
il y a
souvent des pistes comme ça qui s'ouvrent et des quêtes qui s'ouvrent.
Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de disquaire. Après, tu as parlé de commerce. Comment étaient vendus ces disques à cette époque-là?
Alors, tu as raison de poser la question. Je parle de disquaire. En l'occurrence, c'est un terme en fait assez anachronique quand on parle de 78 tours. Le terme disquaire, il se démocratise après la Deuxième Guerre mondiale. Il apparaît dans les années 30, mais il est en fait très peu utilisé. Donc, à cette époque, on ne parle pas du tout de disquaire. L'enregistrement sonore, on va dire de manière expérimentale, ça commence avec Edison en 1877. Le commerce du disque, d'ailleurs, disque, c'est pas tout à fait juste, parce que à peu près en même temps, avant le disque, il y a le cylindre phonographique, donc c'est deux supports qui cohabitent dans un premier temps, et c'est le disque ensuite qui l'emporte. Un cylindre, c'est imaginez, je sais pas, mais on a des verres devant nous, une canette, quelque chose qui fait à peu près ce format, donc un cylindre creux qu'on passe sur un phonographe. Donc ça, c'est sur ce format qu'on a écouté à grande échelle les premiers enregistrements sonores. Donc bien sûr, à l'époque, on parlait pas de disquaire, et ces supports enregistrés, si je veux englober les deux, donc le disque et le cylindre, on les trouvait dans un premier temps pas chez des commerces qui étaient spécialisés. Les commerces spécialisés, ils arrivent un petit peu plus tard, début 20e, mais à la fin du 19e, soit on trouvait ça chez les boutiques qui étaient rattachées directement aux marques. Donc les premières marques dans ce domaine, c'est Pathé pour la France, Gramophone qui était une marque anglaise, Victor qui était une marque américaine, Odéon qui était une marque allemande. Donc ça, c'est Columbia, une autre marque américaine. Ça, c'est les premières grandes multinationales de l'enregistrement. Donc ces marques avaient leur propre magasin. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez amusant, puisque je parlais déjà de géographie en évoquant la rue de Belleville. Toutes ces marques avaient des salons qui se trouvaient tous boulevard des Italiens en plein centre de Paris, tout près de l'Opéra. Et toutes ces grandes boutiques étaient voisines. Il y avait des salles d'audition où les curieux ou les acheteurs potentiels pouvaient venir écouter sur place sur des phonographes des enregistrements. Donc il y avait ces grandes boutiques rattachées à des marques, et sinon il n'y avait pas encore vraiment de magasins spécialisés dans ce domaine, et on trouvait beaucoup ça chez des horlogers, des mécaniciens, des vendeurs de cycles ou des marchands de curiosités. En fait, au départ, l'enregistrement sonore et le phonographe, c'est une curiosité. Dans les années 1900, il y a quelques boutiques spécialisées qui apparaissent. Donc la pochette, cette pochette dont je parlais tout à l'heure, elle concerne une boutique qui est en fait une des toutes premières boutiques spécialisées à Paris dans ce domaine, qui se trouvait à l'entrée du passage Verdot, c'est dans le 9e arrondissement, rue Grange-Batelière. C'est la famille Gaillard qui tenait la boutique. D'ailleurs, quand on rentre, je vous invite à le faire si vous vous promenez dans le quartier, quand on entre dans le passage Verdot, il y a encore un témoignage sur la gauche de cette boutique. Et ça, c'est des choses que je recherche, ce type de témoignage, quand je me promène un peu sur les traces de tous ces marchands et que j'essaie de revivre cette histoire. Donc ça, c'est une des premières boutiques spécialisées, mais les vraies boutiques spécialisées qui ne vendent que des machines parlantes, ce qu'on appelle des machines parlantes, donc ce qui regroupe phonographe, gramophone et des disques, c'est vraiment dans les années 20 que ça apparaît. Voilà.
D'accord, ouais. Et par exemple, chez Artignan, là, où a été trouvé le disque que l'on a écouté, ça, c'est une boutique plutôt... voilà, c'est une boutique arménienne.
C'était un épicier, donc il vendait épicier, des produits, y compris de la nourriture, et il y avait des produits orientaux, et on trouvait aussi des disques. Et ce que je trouve ça très intéressant, il vendait des disques arméniens, mais aussi grecs et turcs, et c'est ce qui est mis en avant sur les étiquettes. Et c'est intéressant.
Ouais, d'accord. Ouais.
On va évoquer une autre diaspora, mais un peu moins lointaine, puisque c'est la diaspora d'Auvergne, en écoutant Martin Kaila. Avec le titre que j'arrive pas à lire parce que Lolo il
marche nuptiale.
Voilà, merci. Thank you.
vient d'écouter un solo de Cabrette par Martin Kayla. La Cabrette, c'est la cornemuse auvergnate et qu'on entend très couramment dans la musique folklorique de cette région. Donc là, on était plongé en fait dans l'ambiance des bals auvergnats de Paris dans l'entre-deux-guerres. C'est un disque qui a été enregistré au début des années 30. Donc par Martin Kayla. Martin Kayla, c'est une espèce de figure tutélaire de la musique auvergnate à Paris. Il est né dans le Cantal en 1889. Il est arrivé à Paris dans les années 1910. C'était un bougnat. Et donc très tôt, il a commencé à jouer dans les bals, notamment de la rue de Lappe dans le 11e, donc juste à côté de Bastille. C'est là où il y avait les bals auvergnats à l'époque. Il a commencé comme musicien pour jouer, pour accompagner les bals. Et il a fini par ouvrir sa propre boutique qui se trouvait rue des Taillandiers, qui paraît dans le 11e arrondissement. Elle est perpendiculaire à la rue de Charonne, si je ne m'abuse. Et donc il a ouvert sa boutique en 1927, il y vendait des instruments de musique, donc la fameuse cabrette, l'accordéon, il vendait des partitions, et il a eu l'idée d'enregistrer la musique qui jouait dans les bals et d'en faire le commerce, de vendre des disques dans sa boutique. Et pour ça, il a créé son propre label qui s'appelait Le Soleil, qui est une marque. Ça dit aussi beaucoup de choses qu'on trouve assez couramment sur les brocantes. Je dois avoir une bonne cinquantaine de disques Le Soleil que j'ai trouvé au fil du temps. Ça montre aussi que c'est une communauté, une diaspora qui achetait beaucoup de disques, qui était active, qui avait une sociabilité importante, et on trouve ces disques auvergnats assez facilement. Quasiment, à ma connaissance, il y a un disque de musique bretonne qui est sorti sur ce label auvergnat, et il est rare ce disque, mais je l'ai. Et c'est intéressant aussi parce que cette maison de disques, donc créée à Paris, à ma connaissance, c'est le premier label de musique régionale qui a été créé en France. C'est assez important parce que il y avait déjà des musiques régionales qui avaient été enregistrées par des grandes maisons de disques nationales dès le début du XXe siècle, peut-être même dès la fin du XIXe. Mais là, on est vraiment sur un label, une maison de disques qui n'est consacrée qu'à ça, et on n'a que des airs auvergnats traditionnels. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette boutique, donc, était installée rue des Taillandiers et qui a déménagé à la fin des années 30 pour aller s'installer dans le 10e, rue du Faubourg Saint-Martin. Ce qui est intéressant, c'est que cette boutique, elle a perduré très longtemps, bien après la mort de Kayla dans les années 50. Et elle a fermé à la toute fin des années 90. Donc, alors c'est pas mon cas, mais je sais qu'il y a d'autres collectionneurs.
Tu l'as raté de peu.
Je l'ai raté de peu, tout à fait. Et je sais qu'il y a des collectionneurs qui ont connu la boutique et qui ont pu acheter des 10-78 tours parce qu'ils en avaient encore en stock à la boutique. Et c'était en tout cas, c'était pas quelqu'un de sa famille, mais la personne qui tenait la boutique à la fin était quelqu'un qui avait connu le patron bien avant. Donc c'était une dame assez âgée. Et c'était effectivement une boutique assez mythique.
D'accord.
Voilà.
Et d'ailleurs, sur dans l'ensemble des boutiques, il en reste, entre guillemets, des boutiques qui ont tenu tout le 20e siècle.
Alors, je pensais que non, justement. Et vous allez voir, je vais en parler un petit peu plus tard de ça.
D'accord. Je vais pas lever le suspense.
L'immense majorité de ces boutiques ont effectivement disparu très tôt. De toute façon, plus récemment, dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu un âge d'or et ensuite la disparition des disquaires, même si aujourd'hui ça revient un petit peu à la mode, même si je pense que ça reste assez marginal. Dans les années 30, fin des années 20, début des années 30, il y avait énormément de marchands à Paris. J'en ai répertorié plusieurs centaines au même moment. Alors, c'était pas forcément uniformément réparti.
Oui, d'un point de vue géographique, on voit qu'il y a une concentration.
Alors là, il y a vraiment, donc c'était l'utilité aussi de faire une carte. Donc mon site Disquaire de Paris, en fait, c'est une carte interactive avec des points, une petite frise chronologique qu'on peut ajuster. On a des points qui apparaissent ou qui disparaissent en fonction de la date qu'on a choisi. Et donc effectivement, quand on observe ce qui se passe sur la carte en fonction du temps, on peut en tirer des vrais enseignements sur la géographie et l'histoire des commerces à Paris, en tout cas liés à l'enregistrement sonore, mais pas que, en fait.
D'ailleurs, j'en profite, si les auditeurs veulent aller sur le site en même temps, ça peut être intéressant. Disquaire de Damien dans les coulisses qui
disquaire de Paris .fr. Et donc effectivement, si on observe un peu ce que nous dit cette carte, on voit par exemple clairement que le quartier des grands boulevards, et si on tire un trait entre République et Opéra et qu'on regarde de part et d'autre au nord et au sud, c'est là que l'immense majorité des premiers inventeurs et des premiers marchands de
périphes de l'époque
les premiers marchands et inventeurs dans ce domaine étaient clairement implantés là-bas. Et on découvre aussi un certain nombre de choses, les arrondissements périphériques. Donc je parlais tout à l'heure du quartier de Belleville et du fameux Artignan rue Le Sage. Ça, c'est très marginal et il y a très peu de marchands de phonographes, de disques à cette époque dans les quartiers périphériques. C'est pareil, la rive gauche est quasiment totalement absente. Les Champs-Élysées n'apparaissent en fait qu'à la fin des années 20. Vraiment jusqu'aux années 20, tout se concentre dans le quartier des grands boulevards, 2e, 3e, 10e, 9e arrondissement. Voilà.
Très bien. On va écouter donc une sardane catalane, la Cabla de Barcelone, par la Santa Espina.
Quel accent!
Écoutez la Santa Espina, une sardane interprétée par une cobla de Barcelone. Alors, c'est un disque de la fin des années 30 qui a été édité en France par les Éditions Sociales Internationales. C'était une maison d'édition qui éditait aussi des livres, mais qui a sorti quelques disques qui étaient liés au Parti communiste français. Ce qu'on vient d'entendre, c'est une espèce d'hymne patriotique, c'est même, on va dire, un morceau très emblématique catalan, qui date du début du XXe siècle, a été interdit sous Franco. Il y a même on trouve même un poème d'Aragon qui rend hommage à ce morceau. Et en fait, là, on est sur un disque politique, en fait, puisque c'était des enregistrements qui étaient destinés aux républicains espagnols en exil. Il date des années 30. Les années 30, c'est l'époque où le disque politique apparaît vraiment, même s'il y avait déjà eu des enregistrements de discours politiques par un certain nombre de grandes figures avant les années 30. Mais dans les années 30, il y a des maisons de disques spécialisées qui voient le jour. À gauche, comme à droite, la plus connue, c'est La Voix des Nôtres. C'était un label qui était lié à la SFIO, mais il y a aussi des textes ou des chants d'extrême droite qu'on peut entendre. Et donc ça, les Éditions Sociales Internationales, c'était quasiment la maison de disques officielle du Parti communiste français.
Et juste les enregistrements comme ça, ils passent à la radio à cette époque?
Ouais, on pouvait. Il y avait des émissions musicales. Ouais. Alors est-ce que des disques un peu de niche comme ça étaient largement diffusés? Je crois pas, mais c'est oui, le disque a été aussi diffusé à la radio assez largement.
Très bien. Bon, on va écouter le suivant. De Hadj El Anka.
Disque polyphone. Cheikh Hadj Mohamed El Anka ou Rbato.
Écouter un morceau d'Hadj El Anka. Hadj El Anka, c'est un très grand chanteur algérien qui est un des pères du Chabi, qui est un genre très populaire, genre musical très populaire en Algérie au XXe siècle. C'est un disque qui a été enregistré en 1937 par la marque Polyphone. Alors, je ne sais pas si vous l'avez noté, au début, il y avait une annonce au début du disque. On a entendu une voix qui a donné le nom de l'artiste, le nom de la marque, le nom de l'artiste. Alors ça, c'est un héritage des tout débuts de l'enregistrement sonore. On avait coutume d'introduire les morceaux, donc il y avait toujours une voix qui donnait le nom de la marque, le nom de l'artiste. Donc ça avait comme but principal d'introduire le morceau.
Comme ça, sur scène.
Comme ça, voilà. Et ça avait une autre utilité, ça permettait d'ajuster un petit peu la vitesse. On parlait de vitesse de rotation tout à l'heure, qui n'était pas tout à fait exacte au début du XXe siècle. ça permettait d'ajuster la vitesse en fonction de la voix dont
la
servait
d'enregistrement, quoi,
dont coup. Servait comme un repère. Ça, c'était plutôt pour la personne qui écoutait la lecture. Voilà, si ça lui semblait un peu rapide, donc il pouvait l'ajuster. Et donc ça a disparu assez rapidement en France, mais sur les disques arabes, on c'est encore quelque chose qu'on voit qu'on a même après la Deuxième Guerre mondiale. Alors j'ai quelque chose d'assez amusant, je parlais de disquaires tout à l'heure, une histoire assez marrante et du coup ça fait écho à la question que tu m'as posée juste avant. Est-ce que tous les commerces dont je parle sur la carte ont disparu? Ça c'était ce que je pensais jusqu'à assez récemment en fait. Peut-être par romantisme, je me voyais comme un archéologue qui travaillait sur des choses qui avaient disparu. Et en fait, assez par hasard, un jour, en passant tout simplement devant à Barbès, il est vraiment juste devant le métro, je suis tombé devant la boutique Sovia. Sovia, c'est justement la boutique où ce disque a été acheté. Alors le disque date de la fin des années 30, je pense qu'il a été acheté plutôt après la Deuxième Guerre, parce qu'il a cet autocollant avec un design assez particulier. Donc je suis passé devant cette boutique et je me suis rendu compte qu'elle existait encore. Alors à ma connaissance, la boutique, elle a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et elle a été reprise par cette famille Sovia, c'est des Auvergnats d'ailleurs, encore des Auvergnats, au tout début des années 30. Donc depuis le début des années 30, c'est la même famille qui tient cette boutique. Donc à ma connaissance, c'est le plus vieux disquaire de Paris. Je suis rentré pour aller leur poser la question. J'ai senti que je soulevais quelque chose d'assez sensible. Ça s'est pas très bien passé, c'était assez curieux.
Ah oui, dommage.
Mais voilà, et cette boutique, elle est très intéressante parce que c'est la toute première qui a vendu au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale de la musique algérienne, marocaine et tunisienne à Paris. C'était à Barbès, il y avait une connexion entre Barbès et Oran, notamment en Algérie. Et ces deux, on les lit, on les rapproche souvent. Et donc c'est le premier des disquaires qui a contribué à diffuser des disques pour la diaspora, voilà, à Barbès.
Alors on va passer le morceau suivant. Chiribim, chiribam, chiribirbim, bam, bam, bam. Chiribim, chiribam, chiribirbim, bam, bam, bam. Ya la ba 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 ba. Chiribam, chiribirbim, bam, bam, bam. Chiribim, chiribam, chiribirbim, bam, bam, bam. Oh, es ist schön fratig auf die Nacht, man wird schön bald nicht tun. In der Rebbe hat noch weit den Städtel reinzufahren. Oh, wo ist jetzt der Rebbe? Beschwert und fehlt mir die Schlitt. Als wenn ein Satz ich habe, der zweite Satz ist vor. Fuhrt er heran in der Mitte. Chiribim, chiribam, chiribirbim, bam, bam, bam. Chiribim, chiribam, chiribirbim, bam, bam, bam. Ya ba 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 ba. Man fiert die Kalitze, die Chippe, in alle Tieren beten. Und der Großen sagt den Harriat, in Tütchen ob zu Stringi, im Blitzen hätt mein Maseltor. Die Kalitze hat ein Jengi. Chiribim, chiribam, chiribirbim, bam, bam, bam. Chiribim, chiribam, chiribirbim, bam, bam, bam. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba.
vient d'écouter Chéribim Chélibom de Bernard Potok et son orchestre du cabaret La Riviera. Je sais pas si c'est le cas pour les auditeurs, mais pour moi, ça, c'est quelque chose qui sonne beaucoup plus familier, hein. On sent que c'est beaucoup plus récent. Ça date de la fin des années 40, du swing. Le cabaret La Riviera, c'était une boîte de nuit. Il y avait beaucoup d'orchestres qui jouaient de la musique yiddish. Cabaret qui se trouvait rue Saint-Martin dans le troisième. On n'a pas beaucoup d'infos sur Bernard Potok. C'était un trompettiste qui a vécu en Pologne, en URSS, qui est passé par Paris après la guerre et qui a émigré ensuite aux États-Unis. Alors, ce disque, il est sorti sur un label qui s'appelait LS Disc. LS Disc, c'est une maison de disques qui a été créée donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par quelqu'un qui s'appelait Léon Speiser. Et il a donné ses initiales LS à ce label, donc LS Disc, qui a sorti beaucoup de disques de musique yiddish au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de la musique russe aussi, de la musique tzigane. La boutique se trouvait rue des Rosiers, donc en plein cœur du Marais. Aujourd'hui, il y a un marchand de falafel, si je ne m'abuse. La boutique existait déjà depuis longtemps. Elle a été créée par le père de Léon Speiser, qui tenait une librairie et puis qui a aussi vendu des disques, mais qui était déjà ouverte bien avant la Deuxième Guerre. Alors il y a une histoire aussi autour de cette boutique qui a été on se pose la question de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. La famille qui tenait la boutique a pas été déportée, ils ont réussi à se cacher, mais la boutique a été aryanisée. C'est des choses que j'avais vues aux archives de Paris. Ils ont réussi à la récupérer.
Alors, ils vendaient des disques à rien.
Non, c'était plus du tout un commerce de disques, mais finalement ils ont réussi. La famille Speiser a réussi à la récupérer après la Deuxième Guerre mondiale.
Ok, alors du coup on a écouté pas mal de disques d'horizons différents, mais bon, finalement est-ce que c'était la majorité des disques qui étaient achetés ou il y avait des titres plus classiques, plus variétés?
Non, c'est très je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans, enfin déjà par goût personnel. Non, parce qu'il y a le plaisir, il y a le plaisir de chercher. Le plaisir de chiner, de faire des trouvailles. Mais c'est vrai que je rentre souvent bredouille des brocantes, donc j'espère que j'aurai de la chance demain matin. Non, c'est très marginal. Le gros de la production à la fin du XXe siècle, c'est dans un premier temps des airs d'opérette ou des orchestres. La Garde républicaine, c'est l'orchestre qui a le plus enregistré avant la Première Guerre mondiale. On aurait pu passer la Garde républicaine. Ouais. Non, mais c'était un orchestre
morceaux.
Militaire. C'était un orchestre militaire. Mais ouais, il jouait ouais. des petites pièces qui étaient adaptées de la musique classique, sinon de l'opéra bien sûr, beaucoup de chants à partir du début des années 20, du jazz, enfin ce qu'on appelait le jazz, et de la variété bien sûr, de la chanson française. C'est le gros de la production.
T'en as aussi dans ta collection? T'as combien de disques d'ailleurs?
J'en ai trop, et pour la taille de mon appartement, j'en ai quelques milliers. Je sais plus, je compte plus, mais j'essaie de me limiter.
Ah oui, quelques milliers quand même.
J'essaie de me limiter parce que l'appartement est trop petit pour ranger ces disques. Bon,
heureusement que t'as un goût pour la musique du monde finalement.
Voilà.
Si t'avais un goût pour toutes les musiques.
C'est par esprit pratique. J'ai presque été quasiment le plus rare. Et cela dit, la France, et en particulier Paris, c'est pas le plus mauvais endroit pour chercher justement ces disques d'Afrique du Nord, d'Asie du Sud-Est. Faut garder en tête que c'est des disques qui ont été enregistrés dans un contexte colonial. Alors, ça serait une longue histoire, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
D'ailleurs, si des auditeurs ont dans leur grenier, chez leur mamie, les 78 tours qui prennent la poussière, n'hésitez pas à contacter
Sans
Débat Kélite sur
tout à l'heure, on
Internet.
Se demandait un peu, on se posait des questions sur l'histoire, sur la source de ces disques. Et c'est vrai que quand je tombe sur un disque comme ça, je me demande toujours si ça vient de la diaspora, si au contraire ça vient d'un voyageur qui allait dans ces pays. Est-ce que c'était un colon, sinon, qui était un peu ouvert d'esprit, qui s'intéressait aux musiques enregistrées sur place, les musiques locales. Donc c'est vrai que ça stimule toujours l'imaginaire.
Alors peut-être juste avant que tu nous présentes le dernier morceau et qu'on clôture finalement l'émission, c'est passé vite, peut-être que tu peux nous parler de tes projets autour de... Enfin, que tu poursuis autour
Je poursuis toujours mes recherches, donc effectivement sur l'histoire de l'enregistrement sonore, en particulier en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est, en Afrique subsaharienne, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est des domaines qui n'ont pas été beaucoup étudiés. Je m'intéresse beaucoup aussi à l'histoire des collectionneurs de disques. Ça me fascine un peu de savoir qui étaient mes prédécesseurs et comment on collectionnait les disques. Ça a commencé, on va dire, le premier collectionneur, c'est dans les années 20. Et ça m'intéresse beaucoup un peu de voir comment on chinait à l'époque. Et je travaille aussi sur une version un petit peu élargie de mon site Disquaire de Paris. J'ai envie d'inclure plus uniquement les marchands de disques ou de phonos, de cylindres, mais aussi ce qu'on appelle les éditeurs de musique, les marchands d'instruments, les luthiers, les salles de spectacle. En fait, l'idée, c'est d'essayer de recréer tout l'écosystème musical parisien. Je m'intéresse surtout à la première partie du XXe siècle, mais il y a beaucoup de choses à... Il y a beaucoup d'histoires de lieux et ça m'intéresse beaucoup, les lieux liés à la musique. Mmh. Voilà. Et donc, on va terminer. Je vais présenter rapidement le dernier morceau et on boucle aussi le voyage musical. On va écouter un disque vietnamien. C'est une balade que je trouve magnifique. C'est un chanteur qui s'appelait Ngoc Bao. C'est une balade, il y a juste guitare et voix. Le disque date... Alors, je ne suis pas sûr, en fait. Vous voyez, faire de la discographie, des fois, on a... un peu de mal à trouver les infos. Je pense que fin 40, début 50, je suis pas tout à fait sûr.
Ouais.
Et c'est un disque qui a été acheté, donc je suis toujours sur cette idée de boutique, de disquaire, dans une librairie vietnamienne. Il y avait une librairie vietnamienne qui se trouvait rue de la Huchette, dans le 5e arrondissement, à côté de Saint-Michel. Et j'avais, il y a quelques années, trouvé toute une pile de disques avec les étiquettes à l'effigie de ce marchand. Et donc ce disque vient de cette boutique. Donc on va écouter Tsotu, ce morceau du chanteur Ngoc Bao.
Alors on va juste, du coup, comme on clôture l'émission, on te remercie, Thomas, d'être venu parmi nous ce soir et d'avoir nous avoir parlé pendant une heure de ta passion et des différentes musiques, notamment du début du 20e siècle. Vous pourrez retrouver cette émission la semaine prochaine en rediffusion à 7h du matin mercredi, et puis sur le site mode d'emploi, donc mode-d-emploi.net. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci et bonne soirée. Donc tu as
et rendez-vous le 22 mars pour la prochaine émission de la 4e dimension sur le droit et la communauté internationale.
Et tu nous introduis alors ce qu'on écoute, Thomas.
Donc Tsotu de Ngoc Bao, une balade vietnamienne. Et merci à vous.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée.
Chợ huyện huyện Thanh Vân hỏi thăm cô Tú đánh vần được chưa. Đánh vần năm ngoái năm xưa, năm nay quên hết nên chưa biết gì. Lưng trời tiếng sao vu vi vắng nghe, ai học chữ y chữ tờ, sách nghi tờ biếu không cho học, liệu cô mình đã đọc được chưa. Đôi bên bác mẹ cùng già, lấy cô hay chữ để mà cây trông. Mùa hè cho chi mùa đông, ruộng vườn thóc lúa tinh thông, cô chẳng nhâm nổ tầm xuân. Còn đường phong xin cô mình đừng phí ngày xanh. Bình dân học vụ lập thành, cô nên tới đó học hành cho thông. Ai về chợ huyện huyện Thanh Vân hoài thăm cô Tú đánh vần được chưa. Đánh vần năm ngoái năm xưa, năm nay quên hết nên chưa biết gì. lưng trời, tiếng sáo vô vi vang nghe, ai học chữ y chữ tờ, sách y tờ, biếu không cho học liệu cô mình đã đọc được chưa. Đôi bên bác mẹ cùng là lấy cô hay chữ để mà cây trông. Mùa hè cho chi mùa đông, ruộng vườn thóc lúa tinh thông, cô chẳng nhâm nổ tầm xuân. Còn đường phong nhỉ, xin cô mình đừng phí ngày xanh. Bình dân học vụ lập thành, cô nên tới đó học hành cho xong.